Et salut à tous, c'est Excel. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Un Train de Retard, le podcast sur l'actu du jeu vidéo, mais en décalé. Et c'est tellement décalé que la dernière émission remonte à mai dernier. J'aimerais pouvoir vous dire qu'elle sera plus régulière à l'avenir, mais je sais que je ne peux pas vous le promettre. Pour vous expliquer en quelques mots ce manque de régularité, il faut savoir que depuis bientôt 14 ans que je fais du contenu sur Internet, j'ai appris très tôt que le secret de la longévité, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ainsi, dans une autre vie, j'ai été pendant un temps voix off pour un top 10 chez Wizdeo, j'ai travaillé comme journaliste pour Gamekult, j'ai streamé chez jeuxvideo.com, chez PlayStation, et depuis 2018, c'est quand même plus stable puisque je n'ai, entre guillemets, plus que 3 ou 4 casquettes à la fois, à savoir la chaîne YouTube, que vous connaissez sans doute, le podcast Fin du Game, que je vous invite à découvrir si c'est pas déjà fait, mais également mes prestations de consulting en tant que game designer, ainsi que le cours que j'anime une fois par an à Mons en Belgique, un cours d'histoire du jeu vidéo. L'avantage pour moi, il est simple, c'est que quand une de mes activités fonctionne moins bien, les autres prennent le relais, mais le revers de la médaille pour vous, c'est que mes formats sortent quand ils sortent en fait. Aussi, merci infiniment à toutes celles et ceux qui, depuis des années parfois, me soutiennent malgré tout sur ma page Patreon. Merci vraiment du fond du cœur, vous pouvez vous aussi m'aider dans cette tentative d'être un des plus vieux youtubeurs encore en activité. Allez, je referme cette parenthèse, il est temps d'évoquer le sujet du jour que je nomme, pour simplifier, la crise dans l'industrie du jeu vidéo, mais qui dépasse selon moi les seules fermetures de studios et les nombreux licenciements dont vous avez probablement entendu parler, puisque depuis 2022, mais surtout en 2023, chaque semaine ou presque, il y a eu une nouvelle annonce en ce sens. Après la période qu'on a connue pendant des années où c'était des rachats de studios à coups de millions de dollars, l'actualité est désormais remplie par des fermetures de studios, des annulations de jeux en cours de développement et enfin des licenciements de plusieurs centaines de salariés qui du jour au lendemain se retrouvent sans travail. C'est toujours difficile de mettre en parallèle ces milliers de personnes qui se retrouvent au chômage du jour au lendemain avec les résultats annuels de l'industrie du jeu vidéo qui, elle, d'après les stats qui sont partagées chaque année par le site gameindustrie.biz, augmente. En 2017, ainsi, la valeur globale de l'industrie, c'est-à-dire les jeux mobiles, les jeux consoles, la partie hardware et numérique, était estimée à 116 milliards de dollars pour monter à 134 milliards de dollars en 2018, 148 milliards de dollars en 2019, 174 milliards de dollars en 2020, puis les chiffres stagnent, entre guillemets, aux alentours de 180 milliards depuis l'année 2021. Or, moi, depuis tout à l'heure, je vous parle d'une crise, et a priori, il n'y en a pas dans ces chiffres. Au mieux, on peut parler d'un ralentissement de la croissance du marché, ou bien d'un plateau qui est atteint, et pour le moment, il tourne aux alentours des 180 milliards de dollars par an, ce qui est beaucoup plus qu'il y a quelques années. Le gâteau, de toute façon, est énorme, et il y a énormément d'entités qui essayent de s'en tailler une part, la plus grosse possible, évidemment. On vit dans une société capitaliste, comme vous le savez. Et donc, ce qu'on a constaté depuis maintenant une bonne dizaine d'années, c'est que beaucoup d'entités ont justement cherché à augmenter la taille de leur part du gâteau simplement en rachetant d'autres entités, ce qui, sur le papier en tout cas, semble être une bonne stratégie. Dans les faits, les nombreux rachats effectués par Sony, Microsoft ou même l'émergence de géants comme Tencent ou encore Embracer n'ont pas forcément eu les résultats escomptés pour les principaux intéressés. Ainsi, on apprenait en mai 2023 que le groupe Embracer n'a pas pu signer un accord de près de 2 milliards de dollars avec le groupe saoudien Savvy Games, alors que les négociations étaient en cours depuis pourtant plusieurs mois, mais le deal s'est écroulé à la dernière minute. C'est un sujet à part entière, toute cette histoire, mais ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est que du jour au lendemain, Embracer, qui rachetait à tour de bras des studios, se retrouve le bec dans l'eau et inverse la vapeur dès le mois de juin en annonçant des réductions de coûts, c'est-à-dire des licenciements massifs et des fermetures de studios qui ont commencé dès le mois d'août 2023. Et ce ne sont évidemment pas les seuls qui ont freiné des deux pieds en 2023. Chez Unity, on parle de 300 personnes. Microsoft a licencié plus de 10 000 personnes, dont une grosse partie dans leur branche gaming. Et la liste, évidemment, n'en finit pas. On parle de licenciements chez Digital Extreme, qui est le studio de Warframe, Epic Games, le studio d'un certain Fortnite, Telltale Games, BioWare, Bungie, CD Projekt Red, le studio Ascendant, qui a été formé par Electronic Arts et qui est derrière le jeu Immortals of Aveum, qui a connu un énorme flop à la sortie, et bien sûr, Embracer eux-mêmes qui a fermé des studios comme Volition, qu'on connaissait pourtant pour être derrière Saints Row. Si on comptabilise tous les licenciements dans l'industrie du jeu vidéo en 2023, et là c'est pas moi qui le fais, il y a un site qui s'en occupe qui s'appelle Game Industry Layoffs, on arrive à plus de 10 500 personnes, ce qui était déjà suffisant à mes yeux pour saper le moral de toute une industrie, ou du moins de toutes celles et ceux qui ne sont pas actionnaires. Car comme souvent, ces licenciements permettent de réduire les coûts comme on dit, et par la même occasion de nourrir les actionnaires qui, on le sait, privilégieront toujours une vision à court terme plutôt qu'une autre. Sauf que si le chiffre de 10 500 300 licenciements est déjà énorme, sachez que simplement en janvier 2024, on parle déjà de près de 6000 personnes qui ont perdu leur emploi. Là où ça devient une véritable crise, et pas juste le turnover habituel de l'industrie du jeu vidéo, c'est que les investissements, comme on l'a vu par exemple avec Embracer, sont en fait au point mort et donc il y a peu de nouvelles embauches. Et si cela ne suffisait pas, cette tendance à réduire les coûts n'existe pas uniquement chez les gros éditeurs, mais se retrouve également dans la sphère indépendante qui souffre tout autant d'un arrêt brutal des investissements. Et le jeu indépendant, ce n'est plus trois personnes dans un garage depuis pas mal d'années maintenant, et le modèle qu'on connaît consiste à trouver des investisseurs, que ce soit des banques, des business angels, ou souvent des éditeurs de jeux indépendants qui vont investir l'argent gagné par les jeux qui sont déjà sortis pour financer la production des futurs jeux, et ainsi de suite. Or, j'en parle assez régulièrement, l'argent n'est pas le seul obstacle pour les jeux indépendants qui font concurrence à des milliers de jeux qui sortent chaque année et surtout à des dizaines de milliers de jeux qui sont sortis les années précédentes. D'après la newsletter Game Discover Co, que je vous recommande chaudement, la concurrence des jeux qui sont sortis il y a plusieurs années est bien réelle et c'est quelque part un des revers de la médaille du tout numérique. Les jeux sont toujours disponibles à la vente et donc rien n'empêche d'acheter Hades, Dead Cells ou Don't Starve des années après leur sortie. Les studios indépendants font donc face à plusieurs problèmes. Il est de plus en plus difficile de financer les jeux, mais pour vendre des jeux, il faut déjà pouvoir les développer, mais surtout il faut se démarquer de la concurrence, et on constate depuis plusieurs années maintenant une hausse de la qualité visuelle des jeux indépendants qui rappelle forcément celle de la course au graphisme qu'on constate également chez les gros éditeurs. Sauf que fatalement, pour faire un jeu plus beau ou plus ambitieux, il vous faut plus d'argent et donc vous voyez évidemment où se situe ce qui ressemble à être une impasse pour beaucoup d'équipes indépendantes. Et pour ne rien arranger, en 2023, beaucoup de gros jeux sont enfin sortis après avoir été décalés pendant des années à cause de la pandémie mondiale, donc la visibilité de ces jeux indépendants a été encore amoindrie. Je pense que vous voyez qu'il y a un gros cercle vicieux qui se dessine là. Je vous propose de faire un petit point à ce stade de l'émission. On a donc d'un côté des gros éditeurs et différentes entités qui investissent massivement dans le jeu vidéo parce que, pour simplifier, la pandémie mondiale a fait exploser le marché du divertissement au sens très large du terme et le jeu vidéo semblait être un bon filon comme n'importe quel autre. Pendant une courte parenthèse, on a même constaté chez les indés que des investissements trop faibles étaient refusés. Des studios ont été poussés par des investisseurs à voir les choses en beaucoup plus grand, quitte à se mettre en danger derrière. Et c'est bien là en fait que se situe tout le problème. L'industrie du jeu vidéo n'est pas une simple histoire de mathématiques, et donc investir 1$ puis gagner 2$, ça ne va pas magiquement devenir investir 2$ puis gagner 4$. Créer un jeu, ça prend du temps, ça prend énormément d'argent, et surtout énormément de talent. Le facteur humain est trop souvent négligé comme on le sait, puisque quand ça coince, on vire des gens, alors que, attention, plot twist, ce sont bien des gens qui font les jeux vidéo et pas les investisseurs. La question qu'on peut alors se poser, c'est s'il y a de la lumière au bout du tunnel, et à titre personnel, je vous avoue que je n'y crois pas trop, et c'est là bien entendu uniquement ma seule opinion, mais à mes yeux, la crise actuelle n'est pas uniquement une espèce de rééquilibrage après la période du Covid. Pour moi, avant cette pandémie, l'industrie était déjà un peu au bord du gouffre à cause d'une course au profit qui ne s'accorde pas vraiment avec la réalité du développement d'un jeu vidéo. Par exemple, quand Microsoft annonce vouloir toucher non plus des millions, mais des milliards de joueurs et de joueuses à travers le monde, c'est juste une vue de l'esprit. Ce n'est pas réalisable dans le modèle actuel qui consiste à dépenser des centaines de millions de dollars pendant plusieurs années sans avoir aucune garantie sur le résultat et le succès d'un jeu. À moins évidemment de s'appeler GTA ou Call of Duty. Et encore, même Call of Duty a connu quelques revers sur la route, et on peut aussi penser à Ubisoft qui pendant un temps semblait marcher sur l'eau avec Assassin's Creed et qui aujourd'hui connaît une crise créative sans précédent dans l'histoire de l'éditeur. Pour moi, et je suis évidemment pas la seule personne à le dire, je pense que l'industrie du jeu vidéo telle qu'elle existe aujourd'hui n'a pas d'avenir réel tant qu'elle ne prendra pas en compte le facteur humain dans son équation. En gros, tant que la masse salariale est considérée comme une espèce de robinet qu'on peut ouvrir et fermer à volonté entre deux projets, on va droit dans le mur. Comme je le disais un peu plus tôt, il ne suffit pas de dépenser plus d'argent et comme par magie, on va en gagner plus. Produire un jeu, c'est un processus d'une complexité folle, cela prend de plus en plus de temps, de plus en plus d'argent et le coût humain est trop souvent négligé comme on le sait depuis des années maintenant avec toutes les histoires autour du crunch et donc ses licenciements à la chaîne. Sauf que ce coût humain est bien réel. On continue chaque année à former de plus en plus de personnes dans les nombreuses branches qui sont liées aux jeux vidéo, mais à côté de ça, les gens avec de l'expérience vont soit être licenciés, soit être sous-payés, soit n'en peuvent plus du crunch et souhaitent simplement avoir une vie un peu meilleure. On se retrouve à avoir des gens talentueux qui quittent définitivement l'industrie avec tout leur savoir-faire dans leur bagage, et ce n'est pas quelque chose qui se remplace en un claquement de doigts, c'est même tout l'inverse. Pendant longtemps, on a comparé, et là je m'inclus dans le lot, le jeu vidéo au cinéma, mais les deux médiums en fait sont très différents à de nombreux égards, et le facteur qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le processus itératif qu'on connaît dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'une équipe de tournage d'un film ne va pas réinventer la roue à chaque nouveau film qu'elle va tourner, et ça semble a priori normal, sauf que c'est pas aussi simple que ça dans le jeu vidéo. Quand on fait du jeu vidéo, on fait un truc, on l'essaye, on voit si ça marche, et puis on passe à l'étape suivante. Sauf que parfois, on doit remettre en cause des trucs qu'on pensait être définitifs, puisque c'est comme ça en fait qu'on fait un jeu vidéo. On teste, on voit si ça marche, et on enchaîne. On pourrait éventuellement se dire que quand même, depuis les années 70, on doit bien savoir faire du jeu vidéo, et depuis le temps, on aurait dû probablement arriver à en faire plus facilement. Sauf qu'en fait, l'industrie du jeu vidéo, elle a selon moi deux problèmes majeurs. D'une part, elle ne prend pas soin de ses talents, et d'autre part, elle fait constamment évoluer sa technologie. Un truc qu'on entend souvent dans l'industrie, c'est que chaque jeu qui sort est un peu un miracle. On apprend par contre chaque année des histoires horribles sur le quotidien des devs qui vont sacrifier leur vie personnelle pour pouvoir sortir un jeu vidéo. Or, les gens qui survivent à tout ça obtiennent une espèce d'expérience énorme qui a priori leur permettrait d'éviter de commettre à nouveau les mêmes erreurs, sauf qu'en fait, là aussi, c'est pas aussi simple. Si je vous dis ça, c'est parce que les standards technologiques évoluent constamment. J'entends par là que les jeux doivent de plus en plus flatter votre rétine, mais ça implique à chaque nouvelle itération un nouveau moteur et donc des mois, voire des années d'apprentissage pour maîtriser correctement l'outil. Et quand enfin on maîtrise ce nouvel outil, il y a une nouvelle génération de consoles ou de processeurs ou de cartes graphiques qui arrivent et c'est reparti pour un tour. Ce que j'essaye de vous dire en fait, c'est que pour moi, le jeu vidéo ne peut plus sereinement poursuivre cette course au graphisme alors qu'année après année, des gens talentueux quittent définitivement l'industrie et embarquent avec elle leur savoir-faire. Vraiment, je ne vois pas comment Ubisoft ou Xbox ou Sony peut sereinement parler de quadruple A si les gens qui savent faire et qui ont fait les triple A qu'on connaît ne travaillent plus dans le jeu vidéo et sont simplement remplacés par des profils juniors qui auraient besoin qu'on leur transmette tout ce savoir-faire. Sauf qu'il arrive de plus en plus que les seniors, changent totalement de domaine pour se rendre compte qu'on gagne mieux sa vie à bosser dans un truc qui certes ne nous passionne peut-être pas, mais dans lequel on pourra travailler et vieillir un peu plus sereinement. C'est pour ça que je suis quand même relativement pessimiste sur ce sujet, j'ai du mal à imaginer comment la logique capitaliste qui veut augmenter en gros ses profits constamment peut s'accorder avec l'arrêt de cette course au graphisme. On a d'un côté des gens qui veulent gagner toujours plus d'argent, mais les gens n'ont pas un porte-monnaie extensible, les journées ne durent pas plus que 24 heures, et surtout faire des jeux de plus en plus ambitieux, ça demande toujours plus de temps et de risques que ça se plante à l'arrivée. Alors qu'à côté, vraiment, je pense qu'on en est quand même au stade où on peut se dire que ça y est, c'est bon. Quand on en est à modéliser des testicules de cheval qui vont gonfler et se dégonfler en fonction de la météo comme dans un Red Dead 2, je me dis qu'on a sans doute atteint un palier de fidélité graphique qui n'est peut-être pas si intéressant que ça d'un point de vue ludique, et je parle même pas évidemment des enjeux écologiques qui devraient, là aussi, pousser toute l'industrie vers des jeux moins ambitieux sur le plan technologique. J'arrive déjà au bout de ce nouvel épisode et j'aimerais évidemment vous parler de lendemain qui chante et d'un avenir radieux, mais vous l'avez compris, la réalité ne va pas vraiment dans ce sens et à titre personnel, j'ai effectivement du mal à voir comment l'industrie pourrait sortir de cette crise sans soit se remettre en question ou bien en laissant sur le carreau comme elle le fait actuellement des milliers de personnes qui ne voudront peut-être plus jamais faire de jeux vidéo. Il y a quand même un peu de positif dont je n'ai pas forcément parlé, mais je pense que ça demanderait tout un épisode à part entière, mais que ça soit en Amérique du Nord comme en Europe, on constate de plus en plus de créateurs et de créatrices de jeux vidéo qui se tournent vers les syndicats pour protéger leurs droits, a fortiori dans cette période où leur avenir est plus incertain que jamais. C'est sans doute une voie à explorer, car encore une fois, je ne vois pas comment on va pouvoir envisager de faire des jeux vidéo si plus personne n'est là pour les faire, même si ça fait rêver quelques personnes, l'IA ne va pas nous remplacer dès demain. On est maintenant à la conclusion de cet épisode d'Un Train de Retard, j'espère vous avoir donné les clés pour mieux comprendre l'actualité du jeu vidéo. La prochaine fois, j'aimerais revenir, je pense, sur le changement stratégique qui est en train de s'opérer chez Xbox, qui commence à sortir ses jeux chez PlayStation. Et si jamais vous, de votre côté, il y a des sujets qui vous intriguent et vous voudriez éventuellement me poser des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, ou bien vous pouvez rejoindre également le serveur Discord de la bande à Aixou. Tous les liens se trouvent dans la description du podcast, il y a le lien Patreon, etc. Donc merci encore une fois pour votre attention. Je vous dis à la prochaine. Ciao.